dans le vent, le podcast sur la culture hip-hop. Artiste, producteur, personne de l'industrie, tu sauras absolument tout dans le vent, animé par Pete Gaillard sur 11MPL.
Mon invité est un rappeur originaire de l'Est de Lille. Il a commencé sur disque depuis 2022, mais affine son art depuis plus longtemps. Il voyage entre rap avec des teintes R&B, n'ayant pas peur d'essayer de nouvelles choses avec quand même comme basse solide l'aura d'un certain Tony Storks. Il défend l'idée qu'il faut tout prendre avec un grain de sel et c'est sûrement pour cela qu'il n'hésite pas à des fois prendre du recul sur l'industrie, le rap, le game, sa carrière de rappeur et ce concept de l'omniprésence. Ne lui dites pas que devenir un grand rappeur, voire un artiste confirmé, ça prend du temps. Il le savait avant même que vous le pensiez. Comme s'il connaissait la salle du temps. Pour mon plus grand plaisir et afin de souligner encore et encore les artistes de notre ville, Montréal 514, Greenface est dans le podcast. Comment ça va?
What up? Ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très content.
Bah ouais, on le fait enfin.
Ouais.
Et comme j'ai l'habitude de dire des fois dans le podcast ou de vive voix quand je parle et tout, hormis deux, trois personnes, les gens, quand je les reçois dans le podcast, c'est qu'on s'est déjà parlé les mois précédents ou au moins dans la dernière année. Et donc, avec toi, on a beaucoup échangé. On s'était jamais vu. On devait se voir dans des événements, mais ma bad, c'est moi qui sors pas trop. Mais en tout cas, on s'était déjà bien parlé, on avait déjà bien échangé sur le rap, sur tout ça. Mais là, on le fait officiellement.
Ça fait plaisir. Puis merci d'avoir eu aussi l'ouverture. Tu sais, des fois, les gens te DM, puis ont envie d'avoir une conversation. Toi, t'as pas forcément envie. Donc, merci d'avoir eu cette oreille-là. Ouais. Le temps aussi. Je trouve qu'on a eu des conversations très intéressantes. Puis ça a vite mené à « Fuck, va falloir que tu viennes au podcast. »
C'est ça. Mais ça a pris du temps quand même avant qu'on puisse trouver… 100%.
Ouais.
À la base, on voulait le faire avant l'été, puis il y a eu l'été, puis après, bon, la rentrée, c'est presque impossible pour tout le monde.
Absolument.
L'automne, c'est un peu plus chill, un peu plus calme.
Ouais, exact.
Donc, c'est une bonne
période. Les temps se rafraîchissent aussi, on a moins le goût de… On va moins dans les parcs, on va moins dans les événements aussi.
C'est ça. Donc, comme je pose la première question à tout le monde, comment tu tombes dans la culture hip-hop et qu'est-ce qui fait… Bon, là, tu m'as dit tantôt qu'il y avait d'autres musiques que tu écoutais et tout ça, mais… Qu'est-ce qui a fait que c'est cette musique-là que tu as choisie, que tu as aimée et comment tu es tombé dans cette culture-là, la culture hip-hop? Tu fais du rap, mais est-ce qu'il y a eu d'autres disciplines et tout ça? Tout ça.
Ben, grosse question.
Ouais.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont eu très tard. J'ai des vieux parents qui m'ont eu comme à 40 ans. Donc, j'ai grandi avec de la vieille musique, beaucoup de soul des années 60, mais aussi de la musique du monde, là, du Bob Marley, du Rachid Taha. J'écoute ça depuis que j'ai deux ans. Là, ouais, absolument. Bon. Puis, je l'ai vu en show d'ailleurs au Nuit d'Afrique.
Rachid Taha, c'est incroyable.
Vraiment, c'était quelque chose. Quand même, il a marqué beaucoup cette époque-là. Ben, en tout cas, ma famille, on a toujours eu son album D1, là, c'était comme son gros album. J'ai baigné dans beaucoup de musique très très jeune, très très tôt. Je pense que c'est plus vers l'âge de 10-11 ans que j'ai découvert le rap et j'ai surtout découvert ça. Mon frère avait la cassette, vraiment en cassette de l'album Doggy Style.
Oh mon Dieu, j'adore quand on parle de cassette.
Absolument. Puis surtout de Doggy Style, je sais qu'il fait partie de ton palmarès.
Ouais, exact.
Je suis tellement d'accord avec toi, c'est tellement un album incroyable. Fait que j'ai découvert un peu le rap à travers cette cassette-là que j'ai joué en boucle et en boucle et en boucle, dont la production, les instrumentaux sont tellement malades. Et moi, ayant un background de musique, c'est surtout tout ce à quoi je portais attention. Je comprenais pas tout ce qu'il disait. Je comprenais les fuck puis les bitch, malheureusement, qui sont les curse words que ma mère détestait m'entendre écouter à ce moment-là, mais je comprenais pas tout à fait. Puis au fur et à mesure que j'ai grandi, tu sais, vers 12-13 ans, je comprenais beaucoup mieux l'anglais. Je suis complètement tombé dans Eminem puis dans Biggie Smalls. Eminem d'abord. Eminem, je pense que ça a été la plus grosse influence pour moi. Dans le quartier où je vivais, je m'identifiais un peu à Eminem, là. Le petit blanc qui fait du rap, puis qui s'en bat les couilles, tu sais, qui fait des fuck you à tout le monde, puis qui est super arrogant.
Un petit bum.
c'est ce qu'on a beaucoup de gens ont été aussi dans leur jeunesse.
Ce qui Eminem était aussi.
Ben oui, tu sais, exactement. Et après, j'ai découvert Biggie, puis là, j'ai comme, à partir de ce moment-là, découvert des artistes. J'ai été un gros, gros fan de et je suis encore un gros, gros fan de Wu-Tang aussi. J'avais toute ma garde-robe, c'était du Wu-Wear, man. Je capotais là-dessus, là. J'écoutais que ça. Et à ce moment-là, tu sais, j'étais pas fan de ce qui se faisait à l'époque. Tu sais, on parle de 2012, 13, 14.
Ouais.
Le trap, l'avènement du trap avait déjà eu lieu. Et même les Kanye West et tout ça, j'écoutais pas trop ça. C'est vraiment plus tard que j'ai dig là-dedans parce que moi, c'était vraiment... Moi, tout ce qui se faisait, genre, après 2001... J'étais vraiment pas fan, j'écoutais vraiment le vieux rap, raw, gros fan de Big Pun, Big L aussi, ouais, absolument. Fait que c'est un peu comme ça que je suis tombé, j'étais pas dans une famille de hip-hop heads, j'étais dans une famille de mélomanes, de gros amateurs de musique, et j'ai fait découvrir ensuite à ma famille, à mon entourage, surtout à ma famille, à mes parents qui avaient un préjugé, là, en bon baby boomer, sur le rap. Puis ma mère, maintenant, tu sais, apprécie ça. Puis elle est comme, ah, c'est quoi déjà la toune, là, que j'aime bien? Je suis comme, c'est I Wanna Get High de Cypress Hill. Elle triple là-dessus, tu sais. Fait que je suis content, là, d'avoir ouvert leur esprit là-dessus. Mais c'est d'abord eux qui avaient ouvert mon esprit par rapport à la musique en général.
Donc, ton frère avait la cassette de Doggy Style, mais lui, en fait, il écoutait pas que du rap. Il écoutait plein d'autres choses.
Pas du tout, exactement. Okay. Il écoutait toutes sortes de choses.
Toutes sortes de choses.
Ben, tu sais, Nirvana, ça a été un gros fan de Nirvana, un gros fan de punk en général.
Okay,
là, comment, des Sex Pistols.
Sublime.
Sublime. Ouais. Tu sais, il y avait des posters partout dans sa chambre. Il y avait des genres de crânes, des corbeaux empaillés qui pendaient de son mur. Tu sais, c'était vraiment un trash et dark époque pour mon frère. Étant donné notre grande différence d'âge, tu sais, on chillait pas ensemble à ce moment-là. Là, aujourd'hui, ça va, il y a comme 34... bientôt 35, moi j'ai 27,
ça va, on peut
chill, tu sais, je veux dire, puis on se rejoint sur plein de choses, mais tu sais, quand t'as 18 ans, t'as pas envie de chiller avec un petit gars d'11 ans, là, tu sais, fait que c'est un peu malgré lui qui m'a transmis ces affaires-là, il a pas passé de temps à me dire, ah, écoute ça, c'est, à un moment donné, il était pas là, puis j'ai trouvé sa cassette, je l'ai mis dans le truc, puis j'ai fait genre, waouh, c'est quoi ça, tu sais.
Mais malgré ça, c'était quand même plus les sonorités East Coast.
Ben, tu sais, étant donné que j'ai découvert Doggy Style en premier, c'est très West Coast. Mais
Parliament, George Clinton, tout ça là-dedans.
Voilà, exactement. Mais ça a très vite été, ouais, je suis un gars. T'sais, si j'ai à choisir, malheureusement, un coast, là, une espèce de dilemme stupide, là, je choisis East à fond la caisse. Là.
Et puis, est-ce que tu penses que c'est du fait de d'habiter sur la côte est nord-américaine aussi, peut-être?
Je pense que oui, parce qu'il y a une question de climat. Il y a quelque chose de très froid sur le East Coast.
Exact.
Des automnes durs, des hivers longs. Il y a quelque chose de peut-être mélancolique qui vient avec ça, tu sais. Puis les vieux samplings des années 90, jazz, souvent un peu... Non, mais même pas juste jazz. Tu sais, quand tu penses à des gros classiques East, comme, tu sais, moi, j'étais un gros, gros, gros fan de Mobb Deep aussi. Tu sais, Shook Ones, tu sais, je suis quasiment plus capable de l'entendre tellement je l'ai entendu.
Okay.
Mais ça a cette mélancolie, cette tristesse-là, ce beat-là, tu sais. Puis il y en a plein, là, des exemples, tu sais. Puis je trouve que c'est ça. Il y a cette espèce de noirceur-là qu'il y a dans le East Coast. Et à l'inverse, tu sens qu'il y a tellement de soleil dans le West Coast.
Exact.
Sans enlever à la situation ghettoïstique qui est tout aussi, tu comprends,
criante. Mais les sonorités sont plus funk.
Mais fuck, il fait beau, tu vas sur la plage boire une bière. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas le même vibe. Fait que, en tout cas, dans la musique, là, je veux dire, j'ai pas vécu sur les côtes américaines. Là, fait que je peux pas vraiment savoir, mais tu sais... Vraiment dans le vibe, ouais, j'étais beaucoup plus East Coast. Là.
Donc là, t'es ado, tu écoutes ce genre de musique-là.
Ouais, au secondaire, genre.
Ok, au secondaire.
Je commence à écrire du rap, genre un an après avoir découvert ça. Là. Ça vient très vite.
Ah ouais?
T'es d'enfer, là, ouais, t'as 100%.
Ok.
Ouais.
Sans avoir encore écouté du rap québécois, montréalais?
Bien avant d'écouter du rap québécois. Bien avant.
OK.
Donc, les premiers rap québécois que j'entends, moi, c'est des Sans Pression, c'est des Impa, c'est des
Bozaïen. KC, LMNOP.
Même pas. Tu sais, moi, je suis un peu plus jeune.
Ouais, t'es un peu plus jeune, ouais.
Tu sais, moi, c'était Musique Plus un peu qui m'a initié, là, tu sais, puis j'écoutais pas religieusement ça. Fait que je suis tombé par hasard sur du rap québécois. Tu sais, il y a eu ensuite l'espèce de gros événement, le Colocasse, puis avec tout le respect que j'ai pour le Colocasse, c'est pas des vrais rappers, là, pour moi. Tu vois ce que. Et la symbolique du gars qui donne son Félix à Sans Pression.
Ouais.
Pas son Félix, mais whatever, là. Ouais, exactement. Ouais. Biz qui donne son trophée à Sans Pression. Tu sais, je veux dire, pour moi, ça exprime tout, là. Tu sais.
Mais, tu sais, c'est intéressant, moi, en tant que Français, quand je suis arrivé ici, il y a déjà plus de 15 ans, je connaissais pas trop le rap québécois, sauf Dubmatic, parce que j'avais été avec MC Solar en France et tout ça, machin. Mais enfin que je tombe sur Loco Loca, c'est hyper politisé tout ça machin et tout
ça, on peut pas le enlever.
J'écoute ça, mais après étant plus dans le côté journalistique médiatique ici avec 11MTL et tout ça machin, puis le fait de rencontrer beaucoup d'artistes rap à Montréal et tout, je me rends compte qu'il y a pas beaucoup de rappeurs ou d'artistes rap montréalais qui sont down avec Loco Locas. Non, mais je veux vraiment pas critiquer Loco Locas.
J'ai quand même dit t'sais, que genre, je les respectais beaucoup.
Oui, bien sûr, moi aussi.
Et je respecte beaucoup Biz, qui maintenant, genre, il écrit des livres, là, tu sais, genre, il est ailleurs, là,
c'est un acteur incroyable, genre, il avait joué Dédé aussi, là.
Exact, ouais, incroyable film. Puis je veux dire, c'est maintenant un acteur de la scène québécoise, là, populaire, là.
T'sais. Puis d'ailleurs, Biz, j'aimerais beaucoup le recevoir ici pour discuter avec lui.
Ouais.
Mais d'après toi, pourquoi ce groupe-là, je pense pas que c'est parce qu'ils viennent de Québec et tout. Parce
pas
que,
du tout. Ça Québec, a aucun rapport, man.
À Québec, toute la, tu sais, toute la scène là-bas était incroyable et tout. Les 8-3, tout ça, machin, gros respect.
Ouais.
Mais d'après toi, pourquoi, et si tu peux me l'expliquer, toi en tant que Québécois et moi en tant que immigrant français, pourquoi Loco Locas peut-être parle moins à des artistes
Surtout les jeunes artistes, j'oserais dire. C'est pas le fait que ça soit politisé, ni le fait que ça soit comme fondamentalement très identitaire québécois, mettons. Je pense que c'est plus au niveau de la
musicale,
technique,
hein?
Musicale, carrément, là, exactement. Puis de la technique de rap. Tu sais, tu vois, quand t'écoutes des vieux tracks de rap, là, tu vois que le monde, il maîtrise pas encore cet art nouveau qu'est le rap. Puis là, beaucoup de monde vont faire comme une rime au sein de la même ligne, tu sais. Puis ensuite, dès la seconde ligne, ils vont changer de rime, tu sais. Moi, j'aime peut-être les patterns un peu plus structurés. J'aime les multisyllabiques, surtout. C'est pour ça que j'ai vraiment capoté, j'ai vraiment trippé avec des Eminem, des Big L, des Big Pun, qui sont des masters de la multisyllabique. C'est des malades mentaux, ces gars-là, tu sais. Puis moi, c'est vraiment ça, je trouve qu'il y a comme une connexion chimique dans le cerveau quand j'entends une bonne multi qui fait comme « Wow, est-ce que c'est dope, là, tu sais, exactement. » Puis, ben, je pense qu'ils en ont 4 multisyllabiques en carrière, Loco Locas. Ouais. Fait que peut-être, tu sais, c'est comme... C'est le rap avant le rap, un peu, tu sais. C'est le rap avant qu'il prenne vraiment son essor au Québec. Fait que j'ai l'impression que c'était du monde un peu plus vieux aussi. C'était pas du monde si jeune que ça, on dirait, quand ils ont connu leur gros succès, là, t'sais.
Même Dubmatic était plus rap que, tu sais.
Ben, oui, ben, en tout cas, peut-être pas plus rap, mais plus hip-hop, mettons.
Exactement, merci. Merci,
100%. Puis même plus rap, parce que oui, plus technique un peu. Tu sais, phonétiquement, je sais pas, c'est un peu plus agréable à écouter. Après, je respecte le fait aussi, moi, l'accent joual, j'aime ça l'entendre dans le rap québécois. T'sais, heureusement que justement, t'as des Loco Locas pour garder ça en vie, mais t'sais, quand tu digues un peu dans le truc, là, t'sais, en fait, il y en avait d'autres. Là,
bien
là,
sûr.
T'sais, pis, t'sais, mais, sans pression, là, t'sais, je veux dire, gros défenseur joual, là, ce gars-là, il n'y a pas plus.
Allez sur le YouTube de Fat et de la Sonorité, là, vous allez tomber sur un tas de compilations de rap québécois.
Gros shout-out à Fat, by the way.
Moi, j'ai découvert des dizaines et des dizaines et des dizaines de compilations et des rappeurs québécois
grâce
qui n'existent plus aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Mais il y en avait des rappeurs à Montréal et c'est au Québec. Puis, tu sais, genre à Trois-Rivières, à Shawi, il y en avait des rappeurs avant dans les années 2000, ici, là.
C'est drôle que tu parles de... Ben oui, tout à fait. Puis c'est drôle que tu parles de Fat parce que, justement... Tu sais,
que j'avais reçu ici.
Ouais, ben, il m'a connu, on s'est connu, moi, puis lui... À l'époque où je commençais justement à écrire, tu sais, on se connaît depuis le secondaire, moi puis Fat, ouais, absolument. Puis on c'est drôle de dire ça là, mais on tripait ben gros sur Wu-Tang, puis on avait genre en joke, OK, chacun des membres de notre petite gang avait un membre de Wu-Tang attribué à lui, OK. Puis lui c'était Method Man,
mes amis.
Et donc moi c'était Ghostface.
Moi c'était Method Man.
Bah oui, OK, toi aussi, bah tu sais, Fat c'était Method Man aussi. Puis moi c'était Ghostface, et c'est de là que c'est venu Greenface.
Ben oui,
c'est à cause de ça. Killer. Exactement. Ben oui. Au début, c'était Greenface Killer. Puis ben là, oui. J'ai fait comme, ah, j'ai jamais tué personne. Fait que je suis un tueur de la rime. Mais de
exactement.
Là, mais oui, mais de là à mettre le mot killer dans mon nom, j'étais comme, ah, c'est peut-être moins proche de mon identité.
Okay.
Mais ouais, 100%. Puis c'est quelqu'un qui avait fait une joke. Mais j'avais fumé, à donner ben du weed. Puis j'avais plus ben de l'alcool. Puis je devais avoir comme 14 ans, 15 ans. Ouais. Puis là, j'étais comme devenu vraiment verdâtre. Puis il y a quelqu'un qui avait call, hey, c'est pas Ghostface, c'est Greenface Killer. T'sais.
Incroyable.
Puis là, c'est comme, on a tellement ri cette joke-là que c'est resté. Fait que j'ai comme ce nom-là depuis que j'ai 14 ans.
Mais alors, si t'as connu Fat et la sonorité, est-ce que t'as connu une fille qui s'appelait Charlie Gagnon, Zigaz, que j'avais reçue ici, qui est chanteuse et qui fait de la musique avec son frère qui s'appelle Jay Lavish?
Non, ça me dit rien, mais j'ai tellement connu le monde à cette époque-là.
Parce qu'elle, elle traînait jeune dans un parc, dans un parc à Montréal avec Fat.
Ok, ouais.
Avec toi, c'est sûr que tu devais être dans la loupe.
Fat, je le voyais presque juste dans des parcs ou chez des amis en commun. Okay.
En tout cas, cette fille-là, qui est maintenant est une chanteuse incroyable montréalaise, s'appelle Zigaz. Donc voilà, elle faisait partie de la
magnifique,
bande.
Magnifique, ok. Nice. Non, ben, peut-être je l'ai déjà vu, comme je t'ai dit.
Ouais.
Mais c'était effrayant, tu sais, pour refaire un peu de pouce là-dessus.
Ouais.
Ce que tu disais, c'est incroyable comment dans ce temps-là, on se ramassait des gangs nombreuses au Parc La Fontaine.
Ça, c'est terminé, hein, t'as vu?
Beaucoup moins, c'est vrai. Hein. Oui, non, puis.
Soyons pas fatalistes.
On était pas genre. Ouais, mais c'est vrai, puis quand je vois des gangs à cette heure, ils sont pas genre 50, là. Nous autres, on était 50. Il y avait genre du monde de Jeanne Mance, du monde de Père Marquette, du monde de mon école à moi. Moi, faut dire que j'étais un gars de Pointeau à la base, tu sais. Puis genre, j'ai été à l'école sur le plateau, tu sais. Fait que c'est pour ça que.
Grosse ride.
Connu. Ouais, grosse ride. Gros clash culturel, je te dirais, man, parce que moi, j'avais des parents qui étaient, somme toute, un peu éduqués, tu vois. Ben, très éduqués, même, tu sais, mon père, c'est un gars qui a une culture générale débordante, tu sais, puis qui passe comme 80% de sa journée à lire, tu sais, puis à se renseigner, puis il m'a beaucoup transmis ça, merci papa, tu sais, mais surtout, par exemple, l'entourage de Pointe-aux-Trembles, qui était full, un peu genre middle, low class, beaucoup de pauvreté, beaucoup de criminalité, beaucoup de monde pas éduqué, qui ont deux dents dans la gueule, puis des chandails avec du feu, tu sais, puis genre, non, mais tu comprends ce que je veux dire, puis quand je suis arrivé au plateau, tout le monde était genre des artistes, puis gays, genre, puis tu sais, c'était une effervescence, mon gars, tu sais, moi, je voyais le clash culturel, tu sais, le monde, il me voyait comme un petit bad boy, genre, d'un coin dur, là, quasiment, puis comme il y avait peur de mes réactions, il y avait peur que je sois réfractaire sur des affaires
la
à cause de ça.
Réputation de l'aise de la ville.
Réputation de l'aise de Calis, là, exactement. Puis pourtant, mais man, on se ramassait tellement, puis tu sais, à cette époque-là, je me souviens d'avoir chill avec Fouki à ce moment-là, avant qu'il devienne Fouki.
Ah
là,
ouais?
T'sais. Ben oui, tu sais, on chillait tout ensemble, on se connaît toutes, là, tu sais, j'ai un bon ami à moi, tu sais, qui a été au primaire avec, puis tu sais, on était, on pouvait se ramasser des 50-60 dans des parties, puis c'était genre presque toutes les fins de semaine. J'ai eu une belle adolescence, là, tu sais. Puis à ce moment-là, c'est ça, tout le monde voulait rapper, tu sais. Puis je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Quand les jeunes découvrent le rap, puis découvrent, ah, peut-être je peux faire du rap, hostie, tout le monde veut se lancer là-dedans.
Ouais.
Et pas tout le monde peut le faire, pas tout le monde a les skills, mais tout le monde le faisait pareil.
Exact.
Tu sais, on était, je pense, 15, 18, genre, à écrire du rap dans nos téléphones, puis là, quand on se rejoignait le soir au parc, on se montrait nos verses, tu sais. Fait que je pense que ça a quand même beaucoup aidé, moi, à, tu sais, en voyant, je pense que c'est ce qui a fait de moi un bon rapper, c'est que je notais là où il y avait des réactions. Si je pitais un verse devant du monde, puis le monde, après une ligne, tu sais, là, j'étais comme, ah, ça a marché, nice, là, je retournais travailler sur mes textes, tu sais, mais tout ça pour dire que ça a été un gros foisonnement, là, tu sais, puis ça a été super enrichissant créativement puis artistiquement, tu sais.
Époque-là,
puis Fat s'en souvient très bien si tu en parles.
Puis même d'abord, si on prend, juste pour rester sur Montréal, tu vois, il y a eu, je pense que c'est aussi ce qui a dû donner le nom, genre, à la bande, genre, les Fourmis, tu vois.
Ouais, 100%. Ben, on connaissait ce monde-là et tout, on chillait avec ce monde-là aussi,
toutes la F et tout là qui était avec genre avec Mike, c'est tout c'était toute une bande quoi, tu sais,
énorme puis c'est effrayant genre le nombre de personnes que ces gens-là connaissent, genre tu sais, c'est fou, ça c'est un peu genre avant ou dans le début un peu de l'avènement des réseaux sociaux où tout le monde capotait là-dessus.
Exact.
Moi à ce moment-là, man, j'avais un flip phone là. J'ai eu un flip phone jusqu'en 2021 là, genre
sérieux?
Avec 9 touches là, pas d'écran tactile, j'étais zéro, j'avais pas de Facebook, j'avais genre un Facebook où j'avais un faux nom puis j'avais 4 amis amis, genre, tu sais, c'était juste pour parler à mon frère quand il était en voyage. J'étais vraiment out of this game.
2021?
Là. Jusqu'en 2021, j'ai un flip phone, mon gars.
Mais c'est hier, 2021.
C'est
là.
Hier, man. Je sais. Puis c'est, il y a bien du monde qui le réalise pas encore. mais je pars de loin, là. Moi, quand j'ai créé mon Instagram, mon gars, en genre 2021, je partais de loin, man. J'avais zéro base. Alors que beaucoup s'étaient déjà familiarisés un peu avec cette. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est rendu tellement big, là. Tu sais, je veux dire, le monde, dès qu'ils ont deux minutes, ils sont là-dessus, là. T'sais.
Ouais, c'est vrai.
Puis il y a quelque chose de bien à ça. Puis tu sais, je trouve que c'est extrêmement important. Puis c'est même intéressant, là. J'ai appris à apprécier ça, puis à aimer ça. Mais tu sais, à cette époque-là, j'étais zéro là-dedans, tu sais. Fait que moi, j'allais voir du monde dans rue, au métro Mont-Royal, puis j'étais comme, t'es-tu dans d'écouter un verse de rap, là? Puis genre, il y a du monde qui était comme. Des calices, puis d'autres mondes qui étaient comme, ouais, vas-y, j'ai deux minutes, tu sais. Puis, ben, c'est comme ça que je me faisais connaître, entre gros guillemets, là. J'ai pas accumulé d'auditoire ou rien, tu sais. J'avais pas de place pour enregistrer ou quoi que ce soit. Fait que c'était vraiment juste de même, là, dans la rue ou dans les parcs, là, tu sais.
Ah, c'est drôle, parce que ça me fait penser un peu à ce que disait Nekfeu au début. En fait, il avait pas de réseaux sociaux, puis. Genre il aimait juste marcher dans Paris des heures et des heures et des heures, il est devenu célèbre, il est devenu ce qu'il est devenu, il a eu son Instagram, tout ça, machin, et puis en fait il a tout supprimé, et puis là maintenant il fait des trucs et tout, puis mais tu sais genre il est reparti en fait, lui dans un truc où fuck les réseaux sociaux, puis
100%
je supprime mon Instagram.
Mais c'est plus logique aussi de faire ça à son âge puis à sa notoriété. Là.
Il a à peu près ton âge.
J'aurais pensé qu'il était un peu plus vieux.
Bah, peut-être 30-31.
Ouais.
Mais lui, carrément, il a, avec le succès énorme qu'il a connu, bah, en fait, il a.
C'est tellement un fou rappeur, man.
Incroyable. Il a rétrogradé dans un truc de plus de décroissance, en fait, de croissance.
Tu vois, on parlait de multisyllabique là, puis de technique là, Nekfeu, peut-être en France c'est un des rois de ça. Moi je le mets dans mon top 5 easy.
Puis là quand tu parlais de Big Pun tantôt, quand j'écoutais Big Pun sur je me rappelle plus du nom de la chanson là dans son album Capital Punishment
classique.
Il y avait une chanson très radio R&B et tout là.
Je sais de quoi tu parles mais j'ai pas le
Like a Prayer.
Still Not a Player.
Still Not a Player. Not a player même là-dedans, il fait des multis incroyables.
Non, mais de fou, moi. Mais lui, c'est une machine.
Il
là,
fait des multis incroyables.
Le pire, c'est qu'il faisait 800 livres. Je sais pas où prenait son souffle.
C'était
beaucoup une question de souffle aussi pour moi. Moi, je me suis pratiqué à devenir un rappeur en rappant des verses qui existaient déjà, en rappant des tracks d'Eminem, fucking impossible à rapper, tu sais, puis c'est comme ça que je suis devenu bon, tu sais, puis que j'ai pu comme gager mon souffle, j'ai une grosse cage thoracique, j'ai beaucoup de souffle, mais tu sais, je vois ce gars-là, man, qui faisait comme fucking 2 tonnes, est-ce que comment que tu fais pour trouver tout ce souffle-là, ce gars-là, c'était tellement de machines.
C'est ça.
Rest in peace.
Donc, avant de rentrer dans tes projets, ta carrière et tout ça, machin et tout. Là, on s'est arrêté au secondaire et tout ça, machin.
Yes.
Là, tu dois aller après genre au cégep et tout.
Exact.
C'est quoi l'album de rap québécois que tu te dis « waouh » ou peut-être que c'est venu plus tard.
C'est venu vraiment plus tard.
Peut-être que c'est venu plus tard, genre, après le cégep et tout,
tu vois. J'étais encore trop là-dedans, rencontrer du monde, montrer mes verses et tout.
Être dehors.
Exactement. Puis c'est drôle quand tu parles, juste après le secondaire est venu le cégep. J'étais au cégep de Rosemont.
OK.
Puis c'est là que j'ai connu Saint-Sucré. Avant qu'il s'appelle Saint-Sucré aussi. Ouais, absolument. Puis tu sais, à ce moment-là, on chillait ensemble. Là. Lui, tu sais, c'est ça, il faisait ses shit, là, tu sais. Mais on chillait un peu ensemble, tu sais, on n'était pas extrêmement proches. Puis c'est vraiment plus tard qu'on s'est recontacté. Puis quand il a vu que je faisais du rap de façon comme plus sérieuse, là, comme lui s'était décidé à le faire.
Exact.
Puis c'est lui qui m'a dit, oh man, qu'est-ce qui se passe avec toi, man? J'ai envie d'écouter tes shit, man. T'es étudiante qu'on chill un après-midi, whatever. Puis là, j'ai été chill un après-midi avec lui, puis c'est là qu'il m'a proposé qu'on fasse un album, tu sais.
Okay.
Mais ça, c'est des années après le cégep, là, tu sais, là. Ouais, exactement.
Ok.
Fait que, mais à ce moment-là, je te dirais que j'avais un bon top 5 d'albums américains, un bon top 5 d'albums français. Je pense même pas que j'avais un top 5 d'albums québécois. j'écoutais de la musique québécoise, mais pas du rap québécois tant que ça.
C'est avec les années que
c'est vraiment plus tard que j'ai redé, que justement avec un gars comme Saint-Sucré qui est un fucking comme un peu comme Fat là, un historien man du rap, puis un vrai amateur de cette culture là. C'est un peu lui qui m'a montré des affaires aussi, puis qui était comme man écoute ça, c'est fucking fly. Puis là j'écoutais, puis je suis comme waouh man, voir que ça existe.
Ouais, c'est
tu découvres un monde là, à ce moment-là là, tu sais quand tu vois que ça se faisait des albums de juste les tracks, comme je te dis, moi c'était surtout les tracks qui passaient à Musique Plus là.
Ouais.
Puis je trouvais ça comment dire, je trouvais ça vraiment rafraîchissant genre d'avoir une scène rap naissante à Montréal. Puis plus je vieillissais, plus je voyais genre l'éclosion de cette scène là. Tu sais, je veux dire, mais j'ai aimé un peu Dead Obies autant que ça sortait. Ouais. On allait voir ces shows avec la gang là, que je te parlais. On allait voir les shows, leurs shows à Dead Obies. Puis c'était des gros shows. Il y avait des mosh pits. C'était un peu ambiance genre punk, metal. Tu sais, le monde se poussait. Pis
clairement,
c'était,
clairement.
C'était un truc de malade. Quelque chose que la scène rap de Montréal n'avait pas encore connu. Puis on leur a reproché beaucoup de choses aussi à Dead Obies. Dans la même époque aussi, LLA commençait à arriver. Puis... pour de vrai, des fucking gros mathématiciens de la rime aussi.
Blue Volvo,
Loud Larry.
Incroyable album, Blue Volvo.
Exactement.
Puis incroyable
je te dirais
album.
Peut-être c'est le premier qui est comme un peu venu à mes oreilles, puis donc que j'ai pu apprécier, puis faire comme « Oh shit, ça c'est du Chris de bon rap
ouais. ».
Mais ça, comme je te dis, c'était avant de d'écouter un album au complet à Sans Pression. C'était avant d'écouter, tu comprends ce que je veux dire?
Ouais.
Fait une fois que j'ai écouté bien des affaires, là peut-être aujourd'hui je serai en mesure de donner un top 5, mais encore là, ça serait difficile pour moi.
Mais
100%.
OK. Ouais. D'ailleurs, moi, je me rappelle quand j'étais étudiant à l'UQAM, il y avait Dead Obies qui avait sorti Sud-Sal, là.
Ouais, exact. Ça a été...
Puis ça, j'ai été dans des shows, c'était la folie. Hein.
Ouais.
Ça s'accrochait au plafond.
Oui,
tout.
C'était complètement... bordel.
Ouais, gros ça. Bordel, quoi.
Moi, j'allais voir beaucoup de shows de rap bordel. À ce moment-là. Là.
Ouais.
J'ai vu I Am, j'ai vu Oxmo Puccino ici.
Wow. Oui, je l'avais croisé au Jazz Fest.
Je pense au Club Soda ou whatever, ouais. Mais... ouais, sûrement. Puis j'ai vu aussi, j'ai vu Wu-Tang, 5 membres de Wu-Tang. J'ai vu le Purple Kush Tour de Method Man aussi à cette époque-là. J'ai vu un autre show de Method Man puis Redman. Je voyais beaucoup de shows de rap, puis pour de vrai, il n'y avait rien d'aussi genre violent puis éclaté que les shows
clair.
De Dead Obies.
Ouais.
Puis on the other end, là, genre, clairement, les shows de LLA, c'était la même affaire.
Ouais.
J'y ai pas été, ça n'a pas donné. J'ai l'impression que c'est venu un peu plus tard aussi.
Là, ils ont refont
bientôt.
C'est venu
à mes oreilles. Oui, je sais qu'ils refont gros shout-out. Loud, je trouve que c'est... Tu sais, je peux te parler peut-être de nom plus que d'album. Là.
Ouais.
Loud, on peut dire ce qu'on veut sur Loud, ses succès commerciaux. Si je suis tanné du monde qui sont en crise parce que quelqu'un a du succès populaire puis commercial puis qui passe à la radio... gros respect à lui.
Bien sûr.
Puis il y a peu de gens qui maîtrisent l'art du rap comme Loud le maîtrise. Je le mettrais, je pense, dans mon top 5 de rappeurs québécois. Là.
Ah, bah oui. Ouais, bah oui, ça c'est sûr. Clairement.
Mais top 5 dur à faire quand même.
Ouais. Donc, avant le single C'est For Real qui est sorti en 2022, ma question c'est. Tu faisais quoi? Il y avait, bon, là, tu nous as dit que, là, tu écrivais et tout.
Ouais.
Mais bon, c'est en 2022 ou 2021 que tu mets vraiment l'objectif sur toi. Est-ce qu'avant, il y avait des mixtapes ou des trucs quand même que t'as fait, tout ça? Genre, quelle est la genèse avant C'est For Real, qui est vraiment le premier single en carrière qu'on peut retrouver vraiment sur les plateformes et tout?
100%. Il doit avoir un track de sortie avant ça.
OK.
Qui doit être de genre 2017 ou 18 là.
Très intéressant.
Qui est dans un album à deux super bons boys à moi qui sont Abdou BCG et CJ Light. C'est des gars de mon quartier, du monde, des amis très proches à moi, du monde que j'aime beaucoup, qui sont still actifs aujourd'hui. C'est des gars qui ont quand même fait, à une époque, man, ils avaient fait une des premières de Niska quand ils étaient venus au Dagobert
c'est
à Québec. Ouais, parce que j'avais un boy, mon boy MC, qui avait un contact là-dedans. Qui connaissait genre le promoteur de whatever, tu sais, puis il a pu se plugger là. Puis ils font encore aujourd'hui, ils font des shows ces gars-là. Allez les checker, pour de vrai, allez les supporter. C'est des gars extrêmement talentueux et des très bons rappeurs. Et c'est eux qui m'ont donné ma première opportunité. Donc, Abdou CG m'a amené à leur studio. Ils m'ont fait rapper pour la première fois devant un fucking mic avec un sound engineer pour les premières fois. Alors que moi, ça faisait déjà genre 7 ans que j'écrivais du rap, là, tu sais.
Bah ouais.
Puis je pense, c'est ça, il y a un seul track, je pense, de moi qui est sorti avant ça. Puis il y avait écrit Greenface, mais genre en deux mots, là, séparé, okay. Greenface. Et c'est le track, oh mon dieu, comment il s'appelle, c'est, l'album s'appelle CB2, c'est genre Chemistry Boys 2, volume 2, incroyable. Exactement. Incroyable. Puis No Cap Rap, c'est No Cap Rap, okay. Le nom de la track, ouais, exactement. Puis plein de monde avait full aimé ça, j'avais eu plein de retours. Mais bon, ça, c'est probablement la seule trace. Sinon, j'ai beaucoup de unrelease aussi, là.
D'accord.
J'ai des trucs qui sont juste jamais sortis. Des tracks de moi puis Abdou, de moi puis CG. Ça, j'en ai plein le téléphone. Mais.
Vous avez un groupe ou pas? Ou non, c'était vraiment trop.
Pas vraiment, c'était genre. Eux, c'était BCG Gang. Okay. Eux, ils ont un groupe.
Okay. Puis
c'était genre avec Leblanc, Steve, okay. Qui rappe, là. Ouais, c'est ça.
Ah, incroyable. Ok,
ouais.
D'accord.
Ouais, c'était une belle histoire.
Bah ouais, vraiment, vraiment. Bah tu sais, il y a toujours une genèse, il y a toujours des années de pratique en arrière aussi avant de.
100%. Puis oh, ça de la pratique, il y en a eu là, tu sais.
Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a ce single-là, c'est For Real, où là, c'est vraiment, ben, tu sais, ben là, tu l'officialises.
Via un de, encore à ce jour. Un de mes meilleurs amis, c'est pas mon meilleur ami, qui s'appelle Brahim Messaoudi, qui fait dans l'événementiel, qui amène beaucoup 98% des artistes kabyles qui viennent à Montréal, à l'Olympia. C'est lui pis son père qui organise ça, là, tu sais.
Super.
Ouais, puis c'est un esti de bon boy à moi, un gars qui a le cœur sur la main, un très très bon Jack. Puis lui, justement, à cause de l'Olympia, il y avait des relations avec du monde, tu sais... dans le milieu, dont du monde qui travaillait à l'Olympia. Et là, à un moment donné, une fille, il a décidé d'essayer quelque chose. D'habitude, il y en a des chanteurs, pas traditionnels, mais des chanteurs genre de l'époque de ses parents.
D'accord.
Du monde que plus les Kabyles de comme 40 ans en montant connaissent bien, tu sais. Et là, il a décidé de faire une espèce de pari, de gamble. Il a dit, on va inviter un rapper, je suis sûr que ça va se vendre. Et il a invité Niro. Qui est des grosses plumes de France aussi.
J'adore.
Je pense que je le mets dans mon top 5 aussi.
Moi aussi.
Et à ce moment-là, t'as un gars qui est venu de France au même moment, si je me trompe pas, et qui s'est mis en relation avec la fille de l'Olympia, le contact de mon boy à l'Olympia. Et eux se partaient, genre, étaient d'âme de se partir une genre de petite maison de disque, une maison de production, un genre de label, tu sais. Mais tout nouveau, là. Puis le gars, il venait de France, je pense qu'il est là depuis genre... tu sais, il était venu comme un peu plus jeune, mais comme qui est établi au Québec, ça fait pas si longtemps, tu sais. Okay. Puis Brahim a eu la brillante idée de me dire... à ce moment-là, man, j'étais dans un peu syndrome de page blanche, j'écrivais plus beaucoup de rap. J'étais comme... parce que je voyais pas les retours, tu sais. J'étais comme, ah, j'avais eu des beaux retours avec les tracks avec mon boy CG et tout.
Vers 2017,
mais,
là, par
ouais,
là.
Exactement, tu sais. Mais j'étais comme, ah, j'ai pas d'équipement, j'ai pas de studio, j'avais pas beaucoup d'argent, tu sais. Puis je voulais pas, genre, vendre la drogue, là, tu sais.
Ouais.
fait que en chillant avec lui, à un moment donné, on niaisait, le gars, il met un instru, puis je fais un verse. Mais tu sais, le gars, il m'avait peut-être jamais entendu rapper, tu sais. Puis c'était déjà mon ami depuis 2-3 ans, là, okay. Puis j'ai fait un verse, puis il a fait le gros « t'as trop de talent pour dormir là-dessus ». Fait que c'est lui qui m'a présenté au label qui a décidé de me signer après avoir entendu un track, là, tu sais. Ils ont mis un instru, j'ai rappé un 16 mesures. Ils ont dit, c'est bon, toi, t'as du talent, tu sais. Fait que, gros respect à Brahim. Love you, Brahim.
Ben ouais, salut.
Et love you, Florian. Love you, Aline aussi. C'est les membres de mon label. Donc, c'est la petite équipe avec laquelle je travaille depuis 2021. Là,
d'accord. Près, donc, là, t'étais exactement. Le premier artiste sur ce label-là.
Ouais, exact. Okay. Avec un autre dude qui s'appelle AFR aussi, là, qui a été, que je connais de loin, loin.
D'accord.
Mais ouais, exact, on est juste deux, là, tu sais, comme je te dis, c'est nouveau, c'est naissant, mais c'est
en famille, là.
Ouais, exactement, tu sais, ouais. Puis c'est du monde incroyable, c'est du monde tellement nice, t'sais, gentil et respectueux. Après, t'sais, je veux dire, c'est une entreprise compliquée que de vouloir créer un grand artiste. Fait que, t'sais, on s'entend pas sur tout, mais ça, c'est des choses qui arrivent dans même les familles les plus heureuses et unies. Fait que, c'est ça, man, c'est ça l'aventure.
Et donc après, il y a eu un autre level qui a été...
première mixtape, là, ouais.
C'est ça, genre première mixtape. Ou déjà, ce qui est intéressant sur cette première mixtape, et souvent, c'est pas ce qu'on fait sur un premier essai. Tu sais, souvent, on est...
ouais, très narrow.
Genre,
ouais,
fond, ouais. Et toi, tu essaies déjà plusieurs choses. Toi, tu fais déjà des choses très, très différentes.
R&B, Afrobeat quasiment. Ouais. Mais du gros trap aussi.
Exact.
Puis, ouais, 100%.
Fait que c'est intéressant de voir que déjà sur ce premier projet-là, tu hésites pas à essayer des trucs différents.
Tu sais, à ce moment-là aussi, c'est tout nouveau avec ce label-là que, tu sais, Aline, elle, ça fait des années qu'elle est au Québec, mais Flo qui vient d'arriver, tu sais, puis j'essaye un peu de... Ça va sonner drôle, là, mais j'essaye un peu d'être le Québécois qui impressionne les Français.
Ouais.
Fait que j'essaye un peu de faire comme des pieds et des mains, puis là, je soigne mon accent à fond la caisse parce que je veux les impressionner puis leur montrer que je suis le fucking meilleur rapper du monde, tu sais. Parce que ça a toujours été ça, puis pour de vrai, il y a peu de rappeurs qui, je pense, qui se disent le contraire, là, tu sais. Pour moi, si tu fais ça, c'est que tu penses que t'es le meilleur, puis...
Exact.
Tu sais... Ben, après, c'est pas qu'il y a de l'ego, là, mais je pense que ça fait partie un peu du truc. Puis c'est ça, j'essayais beaucoup de me prouver, tu sais. Fait que j'étais peut-être un peu moins grounded, tu sais. Fait que j'étais peut-être un peu moins proche de ma vraie identité à ce moment-là. Mais je dis ça avec genre zéro remords, zéro regret. Je suis très content quand même de cette première mixtape. Je trouve que c'est une belle première mixtape pour un premier projet à vie d'un artiste.
Ouais.
Et je suis content d'avoir eu cette polyvalence-là. Moi, j'ai toujours, comme je te dis, j'ai grandi avec du vieux soul, du jazz. Je veux dire, j'écoutais donc pas que du rap, tu vois ce que je veux dire? J'écoute majoritairement du rap, mais j'écoute pas que. J'écoute encore à ce jour, man, du Led Zeppelin une fois de temps en temps, du Rolling Stones, des affaires. Fait que, ouais, j'ai toujours été polyvalent musicalement, là, même avant de commencer à rapper.
Puis ben là, tu me disais en off que t'es musicien aussi.
Ouais, absolument. D'abord et avant tout. Là.
Donc tu joues des instruments.
Je joue guitare, piano, je me débrouille, mettons.
Waouh, ok.
Ouais. Et je joue de la bass aussi, je joue du drum. J'ai un parrain qui tripait sur l'Inde, qui vivait genre des années en Inde, puis qui m'a appris le sitar, puis 4-5 instruments indiens aussi. Fait que je joue beaucoup d'instruments. Là. Je suis juste pas bon avec les instruments avant. Okay. Genre les trompettes et tout. J'adore ça. Là. J'adore comment ça sonne. Mais moi, je suis pas bon avec ça. Je suis bon avec les instruments à cordes plus puis à percussion.
Parce que là, je veux pas aller trop vite. On va parler d'Original EP. On va parler de scène de crime, tout ça, machin. 100%. Mais est-ce que dans le futur, peut-être... je sais qu'il y a un rappeur français que j'aime beaucoup, Django.
Django,
qui a sorti un EP, un petit moment super, super secret où c'était juste lui, genre avec une guitare, dans la veine de la mode emo rap et tout un peu. Donc, ouais. Puis basse. Est-ce que toi, dans le futur, et sans aller trop vite aussi, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais
Ben, je te dirais développer? Que ça a déjà,
ou
ça
alors
déjà
t'es commencé. Trop rappeur, genre.
Non, pas du tout. J'aime ça, merge. C'est juste que premièrement, rapper en même temps que de jouer du piano ou de la guitare, c'est très difficile.
Ouais.
Et j'aime mieux être à 100% au contrôle de mon art au moment où je le pratique. Je sais que ça serait incroyable, là, puis peut-être un jour je vais être capable, là, mais pour l'instant, je me concentre pas là-dessus. Mais là où ça a déjà commencé et là où ça a toujours été mon rêve, c'est que plutôt que de prendre des beats de beatmaker qui m'envoie ou de whatever, tu sais...
D'acheter des packs ou des trucs
ouais,
comme ça.
Ouais, c'est ça, exact. Non, mais tu sais, c'est ça. J'essaie de me détacher un peu de ça.
Okay.
Déjà, j'aime quand je connais le beatmaker qui m'envoie un shit parce qu'il entend ma voix dessus. Là, ça, je préfère déjà ça. Je trouve ça plus organique.
Bien
et
sûr.
Ce qui a déjà commencé aussi, je te dirais, c'est les prods où je merge, où je fais la composition musicale. Donc là, ensuite, comment les drums se mettent, comment le mix de l'instru se fait, Je suis out of that, ouais. mais la composition musicale, souvent, non seulement j'y participe, des fois c'est moi qui la fais entièrement, des fois, bon, tu vois, j'ai sorti un single qui s'appelle T'étais où?
Ouais,
t'as entendu? Ouais. Bon, ben la ligne de guide que t'entends, c'est moi qui la joue, exactement. Ah, okay. Mais en collaboration avec mon boy Gary Wide, là, qui fait de la magie aussi, on a travaillé, les deux, tu sais, on était comme, je sais pas, depuis 15 minutes en train de réfléchir à une ligne de guide à mettre là-dessus, tu sais. Puis là, à un moment donné, Gary trouve quelque chose que j'aime. Puis là, j'ai comme décidé de changer un truc. Puis j'étais comme, OK, passe-moi la guide. Fait que c'est moi qui a fait là-dessus. Il y a un track aussi d'Enceinte de crime qui est entièrement moi qui fais la guide.
Okay.
Et je prends genre, et je fais la bass avec la guide. Okay. J'ai demandé à Saint-Sucré de pitch down la note, genre, pour que ça sonne un peu comme une bass. C'est le track où la bass sonne le moins fort parce que je l'ai fait avec une guide, genre, la bass.
Puis ça, c'est...
Là, c'est lui qui a fait les drums, tu sais. Fait que ça, c'est là que je suis heureux, là, dans la vie. Quand je meule ça, là.
D'être musicien comme ça, c'est une énorme plus-value, non?
Pour moi, oui.
Ben ouais.
J'ai l'impression que... Mais c'est dur de... Tu sais, je travaille juste... J'ai l'impression que toute mes efforts, ma vie se concentrent à essayer de réunir ces deux aspects-là. Parce que j'ai l'impression que... Aujourd'hui, je me définis comme un rapper qui est aussi musicien. Et non comme un musicien qui fait du rap. Tu vois ce que je veux dire?
OK, parce que t'as priorisé...
J'ai priorisé le rap. Ouais. J'ai tellement tombé en amour avec cette culture-là. Puis tellement baigné dans cette culture-là. Je veux dire, tu sais... Pointo, c'est quand même rough, man. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas comme on parle de Saint-Michel ou de Montréal-Nord, mais il y a des hosties de grosses têtes, man. Je veux pas trop parler, là. Ouais. Pointo, c'est rough, man. Puis, tu sais, mon entourage, man, c'est beaucoup du monde qui sont pas dans le système, qui sont des drug dealers, bro. Puis tu comprends ce que je veux dire? J'ai comme tellement été dans ce milieu-là, dans ce monde-là, que c'est devenu un peu ma vie, là, vraiment, le rap. Mais j'oublie jamais d'où je viens, tu sais, mes skills de guide, de piano. Ça, je joue encore du piano, je joue encore de la guitare à ce jour. C'est juste que c'est ça. Mes efforts convergent à merge les deux.
T'sais. Mais parce que, tu sais, je veux pas faire une comparaison qui serait peut-être trop, je sais pas moi, trop grosse ou trop grotesque et tout. Vas-y, mais prends juste l'exemple, par exemple, de Post Malone.
Ouais.
Qui est un rappeur.
Ouais.
Au bout d'un moment, on s'est tous aperçu que, oh putain, c'est un astine musicien.
Ouais.
Tu sais.
Ouais.
Et puis que, bah là, aujourd'hui, après avoir. Fait du rap.
Percé
et tout,
dans le rap, en fait, il décide de.
Je dis pas que tu feras de la country, je pense pas. Je pense que t'es trop genre un fan de hip-hop et tout. Mais ouais, tu vois, un mec comme lui ou un mec comme toi, on vous laisse dans un studio avec une bass, une guitare et un drum, puis t'as un beatmaker avec toi, l'un de tes bons boys.
Ouais.
Mais mec, deux albums dans la nuit, là.
Ouais, 100%. Cependant, j'ai pas le choix de donner un gros, gros shout-out à Saint-Sucré pour l'amélioration de mon efficacité de travail. Scène de crime s'est réalisé sur une longue période de temps, mais avec des sessions extrêmement rapides et extrêmement productives. Ouais. Ce gars-là est d'une productivité sans nom, là, tout le monde en parle. Mais le fait de faire un album avec lui, de faire justement moi puis lui dans un studio, une caisse de 12... Puis, ben du weed, genre, ben c'est ça que ça donnait. On n'a jamais quitté le studio sans avoir fait au moins un track complet, mixé, fini, tout, là, tu sais.
Ah ouais.
Ouais, ouais, non, c'était d'une rapidité, mon gars, d'une efficacité, tu sais. Puis, un bout, là, où ce qu'il a donné, lui, il est en train conjointement de travailler sur son album avec Low Petchy, qui est une grosse légende aussi.
Bah oui, gros rappeur.
Exactement. Puis à un moment donné, il est comme, Low Petchy l'appelle, whatever, pendant que moi puis Saint-Sucré, on est en session. Puis il est comme, qu'est-ce qui se passe? On fait-tu un track? Nanana. Puis finalement, il est venu. Fait que là, on a chillé les trois. Puis quand on faisait des sessions, les trois, man, c'était d'une dinguerie. Ils faisaient genre deux tracks pour leur album. Moi puis Saint-Sucré, on faisait deux tracks pour notre album. OK, là, on faisait un feat avec Low Petchy. Yo, des fois, je laissais les clés du studio à Low Petchy. Ils passaient la nuit, là, man, à faire des prods ou à écrire des verses, whatever. Puis je revenais le voir genre à 9h le matin, le lendemain, genre, puis t'es comme, qu'est-ce qui s'est passé? Comme, j'ai fait quatre prods, puis tout. Tu sais, c'était une productivité incroyable. Puis j'adore... Je me suis rendu compte parce que j'ai toujours pris mon temps, moi, je trouve, pour composer. Puis j'adore la spontanéité de la musique, de la créativité. Tu sais, la créativité, c'est très spontané. C'est pas toi qui choisis quand ça vient. Mais ces gars-là m'ont prouvé qu'il y avait moyen de le provoquer, tu sais.
OK, ouais.
Fait que ça a complètement un peu... ça a changé un peu ma façon de voir la création, tu sais.
D'ailleurs, scène de crime, 18 titres.
Vas-y, ouais.
Le concept et tout est incroyable et tout.
Thanks.
Il y a beaucoup de toon que j'aime, mais Sparkup le Philly, man.
Ouais.
Toi, là, comme tu commences, mais c'est du découpage.
C'est du gros découpage.
C'est du découpage.
Mais
c'est des coups de hache dans le visage.
Exactement.
Quoi.
Mais c'était exact. Je trouve que c'est une des tracks, effectivement, qui représente le mieux le concept que c'était cet album-là.
OK.
Moi, puis Saint Sucré, on s'est dit, on essaye de se out-rap tout l'album.
Ouais.
Fait que.
Se challenger.
Exactement, tu sais. Fait que. Et tout ça dans le respect et l'amicalité, mais faut que je rappe mieux que toi, man, tu sais.
Puis 18 titres, c'est beaucoup, bro.
C'est énorme, man, mais c'est parce qu'on était plus capable de s'arrêter. Comme je te dis, on se voyait. Si on allait dans un studio, on allait sortir avec un track, c'est sûr, même si c'était pas ça le but de la visite, là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est. Puis c'est clairement aussi beaucoup lui qui m'a transmis cette espèce d'énergie là, de surproductivité là. Mais oui, c'est drette ça le concept. Fait que. C'était d'essayer de trouver juste les meilleurs rimes, les meilleurs flows à chaque fois, le plus possible. Ce qui pue le plus le hip-hop possible, ouais. Se le crisser dans la gueule. T'sais.
Donc comment...
Vous de la vulgarité, mais...
comment, à un moment donné, vous vous dites « Ok, il faut arrêter le train qui va à grande vitesse, là, on a 18 titres.
» Ben, en fait, on avait fini. T'sais, à un moment donné, on a comme fini, on a fait comme « Ok, c'est assez. » C'est ce qui était comme... Hey bro, je pense que c'est correct. J'étais comme, ouais, non, moi j'en voulais plus. T'sais. J'aurais okay. fait, je pense, j'aurais fait 32 tunes avec. Pis,
genre un volume 1, volume 2.
Ouais, puis je suis pas inquiet que ça va arriver un jour. Là. J'aimerais ça voir un scène de crime volume 2.
Bien sûr.
Et je suis sûr que, tu sais, moi puis lui, on se parle encore, on est en bon terme, on s'apprécie. Là. Par exemple, à la fin, je pense c'est moi qui ai eu l'idée. Yo, t'es-tu down que. On fasse un track éponyme, tu sais. Puis qu'on clore l'album avec la chanson titre de l'album.
Mm-hmm.
Puis que, même si c'était ça le mandat pour toutes les tracks, là, on donne tout, tu sais. Ouais. Là, on fait le meilleur track possible. Puis tu sais, c'était pas ta préférée, toi, tu vois, Scène de crime. C'était, ta préférée, c'était Sparkup de Philly, tu comprends?
Incroyable.
Mais le but, c'était de faire comme, OK, track genre un peu synthétique de...
Ouais.
Puis autour du concept de scène de crime, parce que tu comprends que c'était comme chaque beat, je le dis dans un des verses, je pense, chaque beat, c'est des scènes de crime. Ouais. Dans le sens que comme c'est la métaphore de on a tué le beat, là, tu comprends, ouais, là, on a massacré le beat.
Non, mais c'est un album de rap, c'est définitivement un album de rap.
Ouais, crissement, ouais. Ouais,
ouais vraiment, c'est vraiment du rap. Et c'est donc justement d'autant plus intéressant parce que après. Il y a eu le petit EP Vanille.
Oui.
Qui est sorti justement en juin 2024 et qui est tout autre chose.
Qui est le dernier, je pense, truc que j'ai sorti.
Ouais. Puis qui est tout autre chose.
Complètement ailleurs.
Tu vois.
Puis c'est drôle parce que dernièrement, justement, j'étais avec Monkey dans un dans genre d'un événement. C'était la fête à un boy. Puis, il y a comme plein de monde qui me rencontrait. Puis Monkey était super gentil. Il était comme. Ah, yo,
il est super gentil.
Ben oui, il m'a fait des fleurs. Là. Il était comme, ah, yo, ce gars-là est fucking bon, il est fucking intéressant. He's one of the king of the new generation. Il mettait beaucoup d'éloges à mon égard. Puis j'étais comme, ah, wow, merci. T'sais, je vivais vraiment une belle soirée, un beau moment.
Ouais.
Puis à un moment donné, ça, c'était quand il me présentait à du monde qui arrivait que je connaissais pas. T'sais. Mm. Puis à un moment donné, il y a un gars qui est arrivé puis qui a fait comme, hey, non, moi, je sais c'est qui Greenface. Mon track préféré de Greenface, c'est Vanille. Puis j'ai fait comme, hein, c'est la première fois que dans un événement vraiment de hip-hop head, bro, de monde qui ont 40 ans et plus.
Il n'a pas choisi un morceau de genre.
Il n'a pas choisi un morceau de scène de crime. 90%
voilà,
l'original
EP.
Ouais, à la limite, exactement. À la limite, tu vois. Exactement. Mais non, c'est ça. Puis là, c'était comme, moi, j'ai mon track préféré de Greenface, c'est Vanille. Puis là, j'étais comme, esti, c'est mon track le moins préféré de cet album-là.
Ouais.
Puis toi, c'est. Tu sais, puis c'est la première fois, puis j'y ai dit au gars, genre, man, c'est la première fois qu'on me dit qu'on aime un track, genre, qui est vraiment. Complètement ailleurs là, de cet univers-là, dans un événement comme ça, tu sais. Puis j'étais très surpris, mais tu vois, encore une fois, là, on parlait de polyvalence, tu sais. J'aime beaucoup la musique chaude aussi. J'ai grandi, tu sais, je t'ai parlé de soul, je t'ai parlé de jazz, de blues, mais j'ai beaucoup grandi avec la musique latine aussi. Les orchestres de Tito Puente, je sais pas si tu sais c'est qui Tito
Bien
Puente.
Sûr, je connais.
Grand chef d'orchestre et musicien portoricain. J'ai grandi avec beaucoup de musique latine, donc des musiques, tu sais, chaude, là, vraiment de chaleur, de danse. Il y a quelque chose, il y a un vibe que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la musique africaine aussi, le dancehall, le amapiano, ces affaires-là. Fait que j'ai comme un peu mélangé des univers, si tu veux. Je trouve quand même que la structure des verses est extrêmement rap, tu sais. Tu vois comme le track Vanille, je l'ai écrit originellement sur l'instru de Who Knew de Eminem.
Ok.
Tom, tom, tom. Tombe. C'est complètement ailleurs, là. Ouais, ça aurait donné un autre résultat complètement. Puis c'est là que tu vois la magie de Gary White, encore une fois, shout out à lui. Tu sais, qui a pris ma lead vocale que j'avais faite sur cet instru-là, genre, en joke, là, que j'avais fait ça un peu pour niaiser. Puis t'es, non, on a un track avec ça, tu sais. Mon boy Flo du label, il a fait yo, c'est un track, ça, man. Il y a quelque chose à faire avec ça. Puis là,
mais c'était aussi peut-être créé, une manière pour toi de souffler, de souffler, puis de prendre une respiration genre après scène de crime, non?
Oui, parce que effectivement, c'est de la musique un peu plus légère, genre
pas forcément plus simple, hein?
Mais pas forcément plus simple. Puis tu vois, tu sais comme le track, il y a un track qui s'appelle Impression dans ce micro EP là. Puis
moi, c'est Baby que j'aime bien.
Ouais, moi c'est ma préférée, ouais, Baby. Ouais. J'adore cette chanson-là. Je suis fier de cette chanson-là aussi. On a eu beaucoup de plaisir à la faire aussi. Puis je trouve que justement dans ces tracks-là, il y a quand même des belles réflexions. Mais tu sais, c'est un autre sujet. C'est les relations hommes-femmes. C'est un sujet qui, je pense, est important dans la chanson depuis le début des temps de la chanson. On parle d'amour, on parle de relations hommes-femmes. On parle d'amour puis de la mort, man. Depuis le début de la littérature, c'est du monde. Genre, tu sais,
Fleurs du mal.
Exactement, même avant, tu sais. C'est des sujets de chansons, tu sais, récurrents, populaires, mais fucking inépuisables. T'sais.
Exactement.
Fait que là, je sentais qu'à ce moment-là, j'avais de quoi à dire aussi sur ça. C'était pas que pour prendre un break, mais effectivement, c'est plus léger. C'est tout un autre vibe. Et il y a pas ce vibe-là de compétition comme dans Scène de crime, tu vois. Il y a tellement un esprit créatif différent. Il y a beaucoup plus de légèreté, là. Donc. C'est oui, un peu pour souffler, mais aussi un peu pour... en ce moment, je pense que j'ai quelque chose à dire là-dessus, tu sais. Okay. Comme je te disais, l'inspiration se commande pas full, fait que...
Et puis, c'est ça. Scène de crime avec Saint Sucré, tu l'as pas sorti sur ton label. Est-ce que t'es assez libre, par exemple, de faire ce que tu veux on the side, genre du label?
Oui, pour le vrai, j'ai...
Ou c'est une discussion qu'il faut avoir avec le label?
Ben oui, en fait, tout se discute avec le label, là, tu sais, je veux dire, je ne
pour
peux
expliquer
pas
aux gens, par vraiment, exemple, qui,
ben, exact.
C'est genre, qui ne savent pas comment ça se passe.
Je peux pas prendre de décision sans leur en parler.
Cours sans un de label.
Ok, voilà. Bon, ben, puis, tu sais, encore là, tu sais, c'est pas... Je sais pas exactement comment décrire. C'est pas exactement que un label. Ils remplissent pas que les fonctions d'un label. Ils font aussi des fonctions de maison de production. En tout cas, mais ça c'est un sujet très long. Là, on pourrait passer un podcast au complet là-dessus.
Exactement.
Mais je ne peux pas prendre vraiment de décision sans leur en parler. Mais ils ont une ouverture incroyable sur les décisions que je vais prendre.
Très important pour les jeunes qui vont...
Qui veulent peut-être signer ou pas.
C'est ça.
Exactement, tu sais. C'est ça. J'ai l'impression que faut quand même que tu t'assures de l'humain. Tu sais, c'est surtout un truc d'humain à humain. On est des humains, man.
Exact.
Il faut se parler, il faut avoir des conversations, se gager. Moi, mon label, on a passé aussi beaucoup de soirées juste... j'allais chez eux, on fumait, on buvait, on avait du fun, puis on parlait pas du tout de travail, tu sais, parce que comme ça on apprend à se connaître, puis là au fil des ans, ben on a appris beaucoup à se connaître, fait qu'on se gauge un peu mieux, mais c'est avant tout ça là, c'est d'humain, puis je suis persuadé à 1000% qu'ils diraient la même chose en ce moment si tu leur posais la question, c'est une question d'humain, on veut voir c'est quoi ta perspective. Si je suis pas d'accord avec ce que tu dis, je peux apporter un point pour l'améliorer, puis honnêtement, puis si genre je veux défendre au prix de mon âme la chanson que je veux leur présenter ou le track que je veux montrer ou l'album, l'idée d'album que j'ai, ben ils vont faire comme ok, mais comme prouve-nous que ça vaut la peine, tu sais.
Faut une discussion, faut de la communication.
Voilà, faut de la chair autour de l'os, puis genre sois backé, là, tu sais, je veux dire, c'est beau de dire, ah, je veux faire un album sur telle affaire, tu comprends, mais, man, c'est du temps, c'est, ouais, exactement.
Donc, c'est une discussion, genre, pour leur dire, j'ai un projet d'album avec un pote, avec un chum,
ouais,
mais ça sortira pas ici, c'est juste un truc que je fais on the side, puis, bah, là, on en parle.
Et voilà, exactement. Okay. Puis, tu sais, ils ont full appuyé, tu sais, je veux dire. Oh. Eux, ils savaient que je connaissais Saint-Sucré très... depuis avant, tu sais. Ouais. Fait qu'ils disent, man, tu le connais depuis 8 ans, genre, ce gars-là. Puis, ils voient que, tu sais, en plus, ils voient la position que Saint-Sucré a dans le game. Eux, en tant que nouveaux acteurs, ils n'ont pas le choix de checker un peu cet aspect-là. Tu sais, moi, bien je m'en calisse un sûr. Peu, mais ben eux, oui. Ils n'ont pas le choix de checker ça. Ils ont fait comme, man, font la caisse, let's go, vas-y, jump, là, tu sais. Après, tu sais, là, je te dis, c'est ça, j'aurais aimé quand même qu'il soit plus présent dans... Et là, c'est moi qui l'invitais pas, là, c'est de ma faute, là.
D'accord.
Mais c'était, l'album avec Scène de crime, c'est beaucoup fait, genre, vraiment, juste moi, puis s'inscrit dans un studio.
Huit clos,
vraiment, exact. Puis on faisait ça, puis on travaillait comme des malades, tu sais. Mais j'aime, mais c'est comme le seul projet où c'est arrivé. Tous les autres projets, mon boy Flo... Aline, quand elle pouvait, elle venait aussi, mais les gens de mon label étaient là la plupart du temps.
D'accord.
Quand que je produisais de la musique, que ça soit Vanille, que ça soit It Is What It Is, que ça soit n'importe quel album, il a toujours été là, puis il y a eu une espèce de, quand même, de vision, puis de structure, pas qu'il m'impose, mais tu sais. Quand il voit que je suis à ma genre 8e bière puis que j'ai envie de créer un autre track, tu sais, il va me dire ouais, peut-être c'est pas le moment idéal, puis ouais. Il a fucking raison de le faire à ce moment-là parce que tu te vois pas toi quand t'es dans le jeu de l'action.
L'objectivité, tout ça.
Voilà, exactement.
Je comprends tout à fait.
Fait que okay. Gros shout-out à eux autres encore une fois, ouais. Mais encore une dernière chose que je veux dire, oui. Par rapport à ça, c'est que c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne un label, et donc je veux pas non plus induire des gens en erreur bien qui sûr, se posent la question sûr. Parce que c'est peut-être pas toujours comme ça que ça se passe. Moi, je sais pas, je n'ai connu qu'une expérience.
Ouais.
Donc je veux pas valoriser ou dévaloriser quelque chose que je suis pas 100% au courant, j'ai juste une expérience de ça.
T'sais. Ok. Vu que dans la chanson Un autre level, tu dis ouais. Il reste plus rien à part les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, justement, vu qu'on est habitué à l'omniprésence et tout ça, machin,
ouais.
Comment on accepte un petit peu step back de temps en temps pour. Ouais. Tu sais, prendre le temps de vivre, de réfléchir à son art.
Je pense que c'est extrêmement important. Et des gens qui sont vraiment présents et vraiment actifs sur les réseaux sociaux vont dire la même chose des fois. Je pense que c'est mon boy CG d'ailleurs qui disait ça, là, tu sais, qui est assez actif, là, genre quotidiennement actif, là, et qui des fois prend genre un, deux mois genre sans rien faire, sans rien poster, il delete son Instagram ou il fait juste ce délog de son compte puis il retourne pas pendant deux mois, tu sais, exactement. Puis je pense que c'est ressourçant. C'est vrai de ça qui vient de se passer dans ma vie, moi d'ailleurs. Je vivais des affaires, man, tu sais, puis je passais du temps avec ceux que j'aime aussi parce que je sais que quand la machine repart, j'ai plus beaucoup de temps pour moi-même, tu sais. Genre, comme je t'ai dit, je travaille, et les seuls jours de congé que j'ai, ben, je les passe à faire ça, de la musique, ma passion, ouais. Tu sais. Mais autrement dit, genre, moi, me reposer un après-midi à rien crisser, ça arrive jamais, sinon, ouais. Tu sais. Fait que là, j'ai pris le temps un peu de me reposer, de me ressourcer, de me poser aussi les bonnes questions. Quel axe prendre ensuite? Qu'est-ce que je veux faire? Qui je veux que les gens voient? Tu sais, quel personnage je veux que les gens voient chez moi, quel aspect principal de ma personnalité doit prédominer, si on veut, tu sais, qu'est-ce qui fait que moi je suis moi, parce que comme je te dis, c'est toutes des questions que moi je me posais, étant donné que j'ai eu un flip phone jusqu'en 2021 puis que exact. J'avais pas de réseaux sociaux à ce moment-là, tu sais. Fait que c'est comme full nouveau pour moi, tu sais.
Tu t'en calissais avant.
Non, mais plus que calissais, là, tu sais. Moi, je me promenais dans la rue, puis si quelqu'un était comme, yo, viens prendre une bière, j'allais prendre une bière, mais tu sais.
Ouais, exact.
Mais ouais, c'est ça. Fait que je suis très, spécialement dans mon cas, moi qui est pas, genre, le plus connaissant là-dedans, c'est super important des fois de step back puis de faire comme, ok, là, où je m'en vais. Okay. Quelle est ma stratégie, entre guillemets, tu sais. Parce que souvent, les gens vont parler de ça aussi avec des vocabulaires super vagues, genre, c'est quoi ta stratégie, puis tout, puis t'es comme, bro, c'est un truc que tu dois un peu faire naturellement et quotidiennement, tu sais.
Ouais.
C'est pas normal si tu dois trop te discipliner. Si tu te disciplines à un gros point, là, c'est que tu t'aimes peut-être pas tant ce que tu fais, tu sais. Mm. Et je pense que c'est important de, d'aimer et d'éprouver du plaisir à faire ce qu'on fait, là, puis ouais. peu importe dans quel domaine, là, tu sais.
OK.
Voilà.
Donc là, you're back.
I'm fucking back. You're fucking exactement, back. Exactement. Cool. Puis là, j'ai tellement de tracks. J'ai écrit aussi beaucoup, tu sais, pendant ce ouais. moment-là aussi. J'ai beaucoup écrit de verse. Fait que là, tu sais, je veux dire, genre, j'ai du stock, là. J'ai du stock, là, à sortir, puis... j'ai des trucs à dire aux gens, là, mmh. tu sais.
Est-ce qu'il y a des tunes qui commencent à se faire ou c'est plus des verses par-ci, par-là, où tu commences à voir?
Il y a les deux. J'ai des tracks, okay. j'ai des tracks mix, master, déjà en banque.
Ah ouais?
Ouais, ouais. Okay. Ouais, ouais, ben oui,
okay,
ben oui.
OK, OK, OK.
J'ai comme, ouais, peut-être 6, là, par exemple, là, pas des tonnes, là, tu sais. J'en ai peut-être 6 de déjà mix, master, prêtes à sortir, tout le kit.
OK.
Que genre, on attend le bon moment, puis tout. Puis encore une fois, c'est des trucs que je discute avec mon label.
Bien sûr.
Un clip. Qui s'en vient, un clip très d'un nice. Track de It Is What It Is, micro-album aussi que j'ai sorti avant Vanille.
Ouais.
Et ce qui est comme un de mes tracks préférés, tu sais, track d'un peu de storytelling qui parle aussi de l'imaginaire du grand frère, un peu. Le grand frère qui est dans la rue, puis que, tu sais, qui fait des affaires croches et tout. Fait qu'on a un gros clip qui s'en vient. Extrêmement genre cinématographique, tu sais.
Super.
J'apparais pas énormément dans ce clip-là, c'est des acteurs et tout. Fait que,
ah ouais.
Ouais, c'est un vrai truc et je suis tellement fier de ce projet-là. Gros shout-out à l'équipe avec ouais. laquelle on l'a fait aussi, qui malheureusement sont pour la plupart retournés en France. Là. Ils étaient comme juste temporairement au pays.
Ah, mais c'est cool que t'aies profité de peut-être mental, la présence même. De gens comme
mais
ça. Pour...
ça puis grâce au label, tu sais, j'ai des opportunités de même des fois qui sont incroyables. Tu sais.
Ok.
Ouais. D'ailleurs, légère mention, là.
Ouais.
Original G's, là, ouais. l'épique que j'avais sorti il y a un bout de temps.
Ouais.
Je sais pas si tu as reconnu un peu le 2022. Cover. Tu as reconnu un peu le cover. C'est l'idée, ce cover-là, attends. Si tu regardes bien le stylisme, là, si tu veux, là, tu sais que c'est fucking Boris, mon gars. Là. C'est le gars qui a dessiné et conceptualisé les Lascars.
Holy shit.
Qui a fait cet album-là. Fait quand je te parle de petites opportunités comme ça, tu sais, des trucs, mais historiques, là, genre, les Lascars, t'as sûrement écouté, t'as sûrement connu ça, toi, là.
Puis, ce gars-là est à Montréal.
Ouais, 100%.
Et c'est, bah, sans trop dire, mais c'est
El
drôle.
El Funky Diablo sur Instagram.
C'est drôle que tu...
Show du
bah monde. Oui, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que justement, je parlais avec, avec le 11.
Yes.
Il y a pas longtemps, puis il me disait... Faut que tu l'invites à ton podcast.
Il est tellement intéressant. Et c'est une soie, là. Je veux dire, c'est un vrai artiste. Là, genre,
mais t'as raison, man. C'est fucking Lascar.
Exact.
Bro.
Puis c'est moi, puis Gary, genre, bah oui. au coin de genre.
Original G's, qui est un EP ouais. en collaboration avec Gary White, bien sûr, important de le préciser.
Absolument.
Qui est sorti en 2022.
Exact.
La même année qu'un autre level.
Ouais, exact. Mais genre. Un autre level est sorti en été, ça c'est sorti en automne.
Exactement.
Ouais, exactement.
C'est ça.
Mais quand même, juste d'avoir ton cover art fait par le gars qui a fucking dessiné les Lascars.
J'ai grandi avec les Lascars, bro, en France.
Mais tu comprends comment c'est historique, là, tu sais, là, je veux dire.
J'ai grandi avec ça.
Pour, man, le gars de mon label qui a grandi aussi avec ça, qui est à peu près dans tes âges, qui c'est un gars de Paris, tu sais, qui a grandi.
Parce qu'à la télé chez nous en France, bro.
Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, fait que c'est lui a dû aussi trouver que c'était l'accomplissement d'une vie là, tu sais, en quelque part c'est,
t'as raison, man.
C'est une chance puis un bonheur, gros shout out à lui, merci d'avoir accepté puis
c'est génial,
je suis vraiment fier de ce cover là,
ouais, vraiment cool,
ouais.
Très très cool. Donc pour donc ok, donc là environ 6 tunes. Mais là, ouais. tu réfléchis à comment tu vas les sortir.
Exact, parce que je sais qu'il y en a qui vont aller dans un album, il y en a qui ont la substance d'un album, et d'autres que je sais que ça va être des singles, et d'autres que je sais pas quoi faire avec.
Puis effectivement, tu joues aux échecs en ce moment-là.
Exactement, tu sais, ouais. exactement. Puis là, je vais avoir un meeting bientôt avec mon label, d'ailleurs, on va discuter okay. de tout ça. Tu sais, ça fait un petit bout, justement, qu'on n'a pas eu de meeting,
bah ouais.
là. Je prenais un peu des vacances pour moi, fait que...
Super.
Fait que là, c'est ça, ça va reprendre bientôt.
Bon, ben, man, c'est parfait. Ce podcast, il arrive au bon moment, en fait, alors, tu
ouais.
vois. Comme quoi, dans la vie, tout se fait au bon moment. Hein. Genre, on aurait pu le faire en juin, mais en juin, là, peut-être que t'étais...
J'allais tomber dans une période morte.
Ouais, dans une pause et
exactement,
tout, tu sais.
Exactement.
Bah, on aurait parlé de Vanille.
Absolument, mais tu vois,
ça
t'a pas empêché d'en parler maintenant. Il est pas trop tard.
Ah non, mais man, on peut en parler.
Il faut défendre ses projets.
Ah, oui.
Ça, c'est un truc que je fais pas assez, mais que, effectivement, tu sais, je veux dire, il faut... Il faut arriver à rendre justice au projet qu'on passe tellement de temps à
c'est
créer,
ça.
À construire, à build up.
Tu sais, comme, je pense au podcast, ils ont reçu. Bah, il y a l'épisode avec Poivy qui est sorti aujourd'hui.
Ouais.
Et ils ont mis la lumière sur son album North Face and Tickfleece, là.
Ouais.
Qui est sorti en 2021 parce qu'il fait une édition vinyle maintenant en 2024. Fait que tu vois, il y a.
Ouais.
C'est toujours le bon moment pour parler de projets, même s'ils sont sortis un an, deux ans, trois ans avant. C'est ouais. pas un problème, c'est toujours d'actualité.
Ouais.
Tu sais.
100%. Donc, 100%. Et puis d'ailleurs, c'est con là, j'avais oublié là, mais tu sais, j'ai participé à aussi l'album Sirop Simple de Saint-Sucré puis de
Lopachi. Oui. Oui.
Tu sais, toutes oui. ces breaks comme un peu en même temps, tu sais.
Ouais. Ah oui, là tu nous parlais de la frénésie.
C'est comme un peu sorti en même temps, genre ouais. que Vanille cette affaire là.
Ouais, fait exact.
Que, c'était comme un peu rushant pour moi, mais grosse mention pour ces deux MC-là qui sont
bien sûr.
Tellement incroyables et qui m'ont accueilli sur cet album-là. Je suis content d'être le seul rapper parmi tous les gros noms qu'il y a c'est dans cet énorme. Album-là, le seul qui a deux tracks dans l'album. C'est comme une fleur incroyable que les gars m'ont faite.
Puis
ils respectent mon art, ils respectent mon talent, mon rap, puis ça me fait vraiment plaisir. Ça me va,
c'est drôle bien. Parce que... je sais pas quand c'était, je pense que c'était il y a deux ans. J'avais fait une entrevue avec Saint-Sucré, je suis le seul. je suis
impossible
le seul,
à avoir, hein, ce gars-là.
Je suis le seul à avoir fait une entrevue écrite avec Saint-Sucré.
Waouh.
Il donne pas d'entrevue.
Ouais non, je sais jamais.
Et je suis le seul à qui il a donné oui, une ouais. entrevue à partir ben à la condition qu'elle était écrite.
Ouais.
Et je me rappelle on a fait ça dans la cour arrière de chez Fat,
okay.
qui nous avait reçus comme des rois, genre un gars extraordinaire.
Ah,
il a, en fait, il a une
avec
blonde
la bonne bière de microbrasserie.
Ah, ouais, c'est ça. Puis aussi, genre, il a une blonde qui est extraordinaire, ouais, très gentille mm-hmm. et tout. Mais bref, en fait, que du beau monde avec le cœur sur la main. Fait ouais. qu'on avait fait ça avec Catherine Review. Qui, okay, ouais. Qui collabore aussi avec 11MTL. Si vous voulez acheter des vinyles, allez la voir au 33 Tours sur Mont-Royal. Shout-out. Yes,
shout-out.
Et donc, on s'était assis toute une après-midi dans la cour arrière de chez Fat et on avait fait cette entrevue-là de Saint-Sucré. D'ailleurs, je vais te parler d'un truc en off. Puis okay. là, bah, tu vas voir.
Parfait.
Mais à ce moment-là, Saint-Sucré, il me disait, yo man, peut-être que ça va se faire un album avec Lopetch.
Ah ouais!
Il me disait ça.
Puis il était comme content de
ouais,
ça.
Ouais, là on est en train de se parler. Je pense que ça va se faire, mais là faut qu'on travaille dessus.
Ah non, il est rendu guess
what?
Loin, man.
Ouais.
Le prochain album de Saint-Sucré, ça va être avec genre Rock Marciano, mon bro. Là.
Ah, t'as
ouais. Non, mais ce gars-là est incroyable. Puis il continue de perfectionner son art et il arrête pas. Donc, encore gros respect. À
mais lui, en tout cas, je trouve ça super cool que tu aies ça comme entourage.
Ouais.
Des super bons rappeurs, aussi bienveillants, aussi ouais. talentueux, que ces gens-là fassent partie de ton cercle.
J'en suis très honoré et pour de vrai, je vais arrêter là, de faire juste des mentions et des shout-outs. Là. Ça me gosse un peu, mais encore une fois, c'est un peu grâce à Saint-Sucré. C'est lui qui m'a présenté ce monde-là. Puis tu sais, aujourd'hui, Monkey, je le vois plus souvent que je vois Saint-Sucré.
Bien
puis,
sûr,
Puis c'est comme un bon ami à moi, avec qui je partage des trucs personnels et tout. Moi, je cherche pas à me faire de nouveaux amis dans vie. Là, j'en ai quand même pas mal là, et j'en ai pas besoin vraiment de plus. Mais tu vois, dans les dernières années, là, ce monde-là qui se sont un peu, dont je me suis rapproché, ça fait vraiment plaisir d'avoir du love de cette communauté-là. C'est du monde qui ont bâti beaucoup la culture hip-hop à Montréal. Hein, avec les Word Up Battle, man, moi, je checkais ça religieusement là, quand j'étais jeune. Mmh. Fait que
Moi, j'étais à l'UQAM avec Filigrane.
Ah ouais, pour vrai, hein?
Moi, j'étais à l'UQAM avec Filigrane, puis il me disait, je viens de partir quelque chose qui s'appelle les Word Up Battle.
Ouais. À ce moment-là, le match faisait déjà des ouais. word-up, des battles en anglais. Puis c'était comme un peu lui qui a communiqué l'idée à Filigrane.
Incroyable.
Comme, on va prendre ce qu'ils font là, à Toronto, puis à New York, puis à LA, puis on va le faire ici. Là,
il était avec moi à l'UQAM, Filigrane.
Incroyable, ouais. incroyable gars.
Filigrane
aussi, gros respect à lui.
OK, donc... j'ai pas envie que tu donnes de date ou de mois, machin, mais on va dire dans les prochains temps, t'arrives ouais. avec un vidéoclip et t'arrives avec potentiellement un projet qui va se dessiner.
Exactement.
dans les mois à venir.
Clairement, clairement ce mois-ci, il va avoir un le clip va sortir.
Ah ouais, ok, ouais, ouais.
Ce mois-ci, avant la fin, avant décembre.
D'accord.
Ce clip-là va sortir.
Nice.
Ça, c'est sûr et certain.
Ok.
Et là, donc, toute l'activité va reprendre en même temps, tu sais.
2025,
les sessions studio et tout. Ouais, c'est ça, tu sais, je sais pas, je pense pas sortir. Peut-être sortir un track pour les fêtes, genre.
Ok.
Tu sais, période des fêtes, là. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça passe un peu dans le vent à ce moment-là.
Ouais,
t'sais,
c'est ouais,
un peu
c'est
le monde, sont là, sont dans les cadeaux, sont dans les... Non, mais ils sont dans l'engouement des fins de session pour les jeunes.
Exact, exact.
Fait que je sais pas si c'est le moment idéal, mais ça fait quand même depuis, je pense, juin que j'ai rien sorti. Fait que j'ai le goût de sortir de la musique aussi, là, tu sais, genre, okay. C'est dans mes priorités, là, puis on discute avec le label, on work de façon à ce que tout se fasse le mieux possible.
Okay. Avant de partir, fais-moi un top 5 d'albums rap.
en anglais, français ou...
US d'abord.
Ok, parfait.
Oh juste de même, hein, peut-être que le domaine il peut changer ton top 5.
Ouais, c'est ça. Puis, ok, mettons fuck l'ordre, là.
Ouais, randomly.
Ok. Ben, clairement, Ready to Die de Biggie Smalls. Fucking Doggy Style aussi de Snoop Dogg, obligé. Capital Punishment de Big Pun. Marshall Mathers LP en 2001 de Eminem. Je suis rendu à quoi, là?
4.
4.
Un petit
Enter the 36 Chamber.
Incroyable.
Ouais, ça serait. C'est mon petit top 5, là. Puis là, tu sais, je suis resté dans le old school, là. J'aurais très bien pu mettre, genre, To Pimp a Butterfly. Puis je suis un gros fan de Kendrick Lamar. Mais,
ouais.
Et de plein d'autres artistes. Mais là, vite à brûle pour point comme ça, je te dis. Je te dis ces 5 là.
Puis vite à brûle de même aussi dans le francophone.
Dans le francophone.
Tout mélangé, mec.
God, oh my God.
Randomly
man.
Again. Still randomly.
Fuck, aïe, ça c'est dur. Pour le vrai, Sirop Simple, man. Je mets Sirop Simple là-dedans, man. Allez tout chier.
Ouais, c'est clair.
Je mets Scène de Crime aussi, allez tout chier.
C'est clair.
Puis les trois autres, ça va être des Français, allez tout chier.
C'est clair.
fucking L'École du micro d'argent.
Ben oui.
Qui
est un album qu'ils avaient
Supreme enregistré. NTM, le premier, là, le bleu, là. Tu vois le bleu là?
Paris sous les bombes. Ah non, ouais. L'éponyme.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. Exactement. Puis quoi d'autre?
Avec ma Ben Spitoun.
Attends, qu'est-ce que je pourrais dire? Man, je dirais. Je vais aller ailleurs. Résilience d'Anima.
Oh shit.
Ouais. Album où je trouve qu'il y a tellement step up son writing game. Moi qui jugeais ce rappeur-là avant, puis là j'ai fait genre, ah oh, ok, non, il s'est rappé ce gars-là.
Non, très bon album.
Chris de bon album. Puis je pense, jusqu'à maintenant, en tout cas, son meilleur avis.
Ouais.
J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous faire pour la suite. Les albums qu'il a sortis après, bon, je les ai aimés, mais vraiment pas autant que Résilience. Fait que, ouais, ça serait ça mon,
nice,
mon top 5 du moment. Comme tu dis, ça peut changer demain.
Ouais, exact. Ouais. Merci d'être venu au podcast.
Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir.
Ça fait plaisir, mon gars. Ciao.
Salut.